à 4 de la grande crise. Chung Sin. Lorsque la crise trisolarienne éclata, Chung Sin venait tout juste de terminer ses études. Elle avait été embauchée au sein d'un groupe de travail menant des recherches sur des systèmes de propulsion pour la nouvelle génération des fusées Longue Marche, une unité qui, aux yeux de tous, occupait une position centrale et décisive. Cependant, Chung Sin avait perdu tout enthousiasme pour son domaine de spécialisation. Peu à peu, elle avait pris conscience que les fusées à propulsion chimique étaient similaires aux grandes cheminées du début de la révolution industrielle, louées en leur temps par les poètes comme si elles représentaient la canopée de la civilisation industrielle à venir. Aujourd'hui, les hommes adressaient les mêmes louanges aux fusées, persuadés qu'elles étaient les symboles de l'entrée dans l'ère de la navigation spatiale. Mais l'humanité n'en verrait sans doute jamais l'aube si elle ne comptait que sur les moteurs des fusées. La crise trisolarienne n'avait fait que rendre cette réalité encore plus évidente. Essayer de bâtir un système de défense du système solaire qui repose sur des fusées chimiques était déraisonnable. Résolu à ne pas rester enfermé dans l'étroitesse de son secteur, Chung Sin avait jadis suivi des cours portant sur la propulsion nucléaire. Après le début de la crise, tous les travaux en lien avec ces thématiques s'accélérèrent et on donna même le feu vert au programme de développement d'une première génération de navettes spatiales qu'on laissait traîner depuis bien trop longtemps. Le groupe de travail qu'elle avait rejoint reçut la charge de concevoir un prototype de moteur pour avions spatiaux. Les perspectives professionnelles de Chung Sin étaient rayonnantes. Ses compétences étaient reconnues et, dans le domaine de la navigation aérospatiale, une bonne partie des ingénieurs en chef avaient comme elle commencé leur carrière dans la conception de moteurs. Cependant, elle restait persuadée que les moteurs chimiques appartenaient à une technologie déjà crépusculaire et pensait que l'unité au sein de laquelle elle travaillait n'irait pas très loin. Avancer dans une mauvaise direction était pire que de faire du surplace, mais son travail lui demandait malgré tout de s'y consacrer corps et âme, ce qui ne manquait pas de lui faire s'arracher les cheveux. Une opportunité de s'échapper se présenta rapidement à elle. Les Nations Unies commençaient à créer toutes sortes d'agences en lien avec la défense de la planète. Contrairement aux organisations placées autrefois sous l'égide de l'ONU, celles-ci dépendaient désormais directement du Conseil de défense planétaire et étaient pourvues d'experts détachés par différentes nations. Le système de navigation aérospatiale chinois affectait lui aussi un grand nombre d'employés plus ou moins aguerris aux dites agences. Un responsable était venu proposer un nouveau poste à Chung Sin, assistante du directeur du Centre de planification technologique de l'Agence de renseignement stratégique du CDP. L'essentiel du travail de renseignement contre les adversaires du monde humain s'était jusqu'ici principalement concentré sur l'organisation Terre Trisolaris, afin d'obtenir à travers eux des messages qu'aurait pu leur transmettre le monde trisolarien. Mais l'Agence de renseignement stratégique planétaire, l'ARP, concentrerait maintenant son attention sur les échanges entre la flotte trisolarienne et sa planète mère. Elle avait pour cela besoin de membres ayant de solides connaissances dans le domaine des technologies aérospatiales. Sans hésiter un seul instant, Chung Sin accepta le poste. Le siège de l'ARP se trouvait dans un vieil immeuble à 6 étages non loin de celui des Nations Unies. La bâtisse avait été construite à la fin du XVIIIe siècle. Épaisse et robuste, elle donnait l'impression d'être un grand bloc de granit. Lorsqu'après avoir traversé le Pacifique, Chung Sin poussa ses portes pour la première fois, elle frissonna. C'était comme si elle posait les pieds dans une forteresse. L'endroit différait de ce qu'elle s'était jusqu'ici imaginé d'une agence de renseignement. Il lui faisait davantage penser à un lieu où se fomentaient à voix basse des complots dignes de la cour byzantine. Le bâtiment était vide. Elle était l'une des premières à venir se présenter au travail. Dans un bureau jonché de cartons à peine ouverts et de fournitures encore dans leurs emballages, elle fit la connaissance du directeur du Centre de planification technologique de l'ARP, Mikhail Vadimov, la quarantaine, large et robuste, s'exprimant avec un accent russe si prononcé que Chung Sin mit un certain temps avant de comprendre qu'il s'adressait à elle en anglais. Il s'assit sur un carton et rouspéta qu'il avait une expérience de plus de 10 ans dans l'industrie de la navigation aérospatiale et qu'il n'avait pas besoin d'une assistante. Tous les pays se battaient pour placer leurs pions au sein de l'ARP, mais aucun d'entre eux n'avait vraiment envie de mettre la main au porte-monnaie. Quand il parut se rappeler que c'était une jeune femme qui se trouvait en face de lui, il se reprit et tenta de réconforter une Chung Sin un peu déboussolée en certifiant que, si l'agence laissait une trace dans l'histoire, même si, et c'était tout à fait possible, ce n'était pas une très jolie trace, on se souviendrait d'eux comme des deux premiers à l'avoir rejointe. L'idée d'assister un directeur familier comme elle du domaine aérospatial ravigota Chung Sin. Elle demanda à Vadimov sur quel projet il avait travaillé dans le passé. Vadimov lui décrivit sommairement sa participation au siècle dernier à la conception de la navette spatiale Buran, qui avait fini par être détruite un peu plus tard. Puis il raconta qu'il avait été chargé de la conception d'un vaisseau cargo spatial. Il resta plus évasif sur la suite de sa carrière, se contentant de dire qu'il avait travaillé plus de 2 ans dans le secteur diplomatique, avant d'intégrer un certain département où il s'était consacré au même genre de boulot pour lequel il avait été recruté ici. Il conseilla à Chung Sin d'éviter d'interroger ses futurs collègues sur leurs expériences professionnelles passées.
« Le directeur de l'agence est déjà là, lui aussi. Il est dans son bureau, à l'étage. Tu peux aller le saluer, mais fais attention, il a horreur de perdre son temps. »
Sitôt entré dans le spacieux bureau du directeur, Chung Sin fut assailli par une forte odeur de cigare. Ce qui capta en premier son regard, ce fut une peinture à l'huile accrochée au mur. Un sombre paysage enneigé, surplombé par un ciel gris, occupait la majeure partie du tableau. Au loin, dans la perspective, à la rencontre des nuages et de la neige, s'étendaient des formes noirâtres. À mieux y regarder, on discernait un ensemble de bâtisses sales, majoritairement des maisons basses, entre lesquelles s'intercalaient plusieurs immeubles d'architecture européenne de 2 ou 3 étages. À en juger par la configuration de la rivière et d'autres indices figurant au premier plan, on pouvait deviner la ville de New York au début du XVIIIe siècle. L'œuvre donnait à Chung Sin une puissante impression de froideur qui collait bien avec la figure de l'individu assis sous le tableau. Une autre peinture à l'huile, plus petite, était suspendue à côté de la grande. Elle avait pour sujet principal une épée antique, munie d'une garde en or et d'une lame étincelante. Elle était empoignée par une main gantée de bronze, seule partie du corps à être représentée sur le tableau. L'épée tenait en équilibre une couronne de fleurs rouges, blanches et jaunes qu'elle venait de repêcher dans une eau bleue. Les couleurs de l'œuvre offraient un contraste saisissant avec celles du grand tableau. Elles étaient vives et éclatantes, mais trahissaient un sinistre présage. Chung Sin remarqua que des gouttes de sang maculaient les fleurs blanches de la couronne. Thomas Wade, directeur de l'ARP, était bien plus jeune que ce à quoi s'attendait Chung Sin. Il était moins âgé que Vadimov et aussi plus séduisant. Son visage dégageait une forme de beauté antique. Chung Sin comprendrait plus tard que cette perception venait en grande partie de son absence d'expression, un peu comme s'il était une statue froide et sans vie échappée de l'un des tableaux derrière lui. Il n'avait pas l'air occupé. Et la table de bureau devant lui était vide, sans aucune présence d'ordinateur ou de documents papier. Son regard était cependant absorbé par le cigare qu'il tenait dans la main. Il avait jeté un rapide coup d'œil à Chung Sin quand elle était entrée, puis s'était replongé dans l'examen de son cigare. Il ne releva la tête qu'une fois que Chung Sin se fut présentée et eut modestement exprimé qu'elle était sûre d'apprendre beaucoup à son contact. Les premières impressions qui se dégageaient de ses yeux étaient de la fatigue et de la nonchalance, mais ils étaient aussi empreints d'une densité et d'une sagacité qui ne manquèrent pas de mettre Chung Sin mal à l'aise. Un sourire s'esquissa sur le visage de Wade, mais c'était un filet d'eau glacée suintant d'une craquelure au milieu d'une rivière gelée. Il n'apporta pas la moindre once de chaleur à Cheng Xin. Elle essaya de lui répondre par un autre sourire, mais les premiers mots qui sortirent de la bouche du directeur paralysèrent sa mâchoire, de même que son corps tout entier. « Serais-tu prête à vendre ta mère à un bordel ?» demanda Wade. Interloqué, Cheng Xin secoua la tête, non pas tant pour indiquer qu'elle refusait de prostituer sa mère, que parce qu'elle craignait de ne pas avoir bien entendu la question. Wade agita son cigare et ajouta « Merci, tu peux retourner travailler. » Cheng Xin rapporta cet échange à Vadimov qui répondit en riant « C'est une question qu'on pose souvent dans notre branche, c'est une simple phrase, rien de plus. Ça doit dater de la Seconde Guerre mondiale. Dans le temps, les vieux briscards la lançaient pour charrier les novices. L'idée derrière ça, c'est que nous sommes les seuls individus de la planète dont le cœur de métier est le mensonge et la trahison. Face aux normes morales habituelles, il nous faut parfois être un peu flexible. L'ARP est divisée en deux sections différentes. La première est composée d'experts techniques dans ton genre, l'autre de vétérans issus des agences militaires de renseignement du monde entier. Tu te doutes bien que les façons de penser et d'agir dans les deux sections varient du tout au tout. Heureusement, j'ai la chance d'être familier des deux et j'aiderai tout le monde ici à s'adapter à l'une et à l'autre. Mais aujourd'hui, notre ennemi est trisolarien, ce ne sera pas un travail de renseignement traditionnel. Certaines choses ne changeront jamais. Les autres membres du personnel arrivèrent ensuite au compte-gouttes à l'agence, la plupart détachés par les pays membres permanents du Conseil de défense planétaire. Tous faisaient en façade preuve de courtoisie, mais bouillonnaient intérieurement de méfiance et de jalousie. Les experts techniques ne donnaient pas l'impression de vouloir communiquer avec autrui et se cramponnaient à leur poche, comme s'ils avaient peur qu'on vienne leur voler quelque chose. Les vétérans des services de renseignement étaient quant à eux d'un entrain et d'une affabilité exubérant, mais semblaient toujours en train de guetter la moindre opportunité de dérober une information. Comme l'avait prédit Vadimov, ces individus semblaient plus intéressés par le fait d'obtenir des renseignements sur leurs semblables que sur les trisolariens. Deux jours plus tard fut organisée la première séance plénière de l'ARP, à laquelle n'assistaient toutefois pas tous les membres. En dehors de Wade, l'ARP était dirigée par trois vice-directeurs, respectivement anglais, français et chinois. Yu Weimin, le vice-directeur chinois, fut le premier à prendre la parole. Cheng Xin ignorait de quelle institution il était issu, et c'était de toute façon le genre d'homme qu'il fallait rencontrer au moins trois fois avant que son image se grave dans un esprit. Par bonheur, il ne se lança pas dans un discours fumeux et interminable, comme c'était pourtant répandu chez les bureaucrates chinois. Il fut au contraire limpide, se permettant simplement quelques lieux communs d'usage pour célébrer la fondation de l'agence. Il expliqua qu'il était conscient que chaque membre ici présent avait été envoyé par son propre pays et devait désormais fidélité à deux entités distinctes. L'ARP ne prétendait pas exiger d'eux qu'ils placent leur loyauté pour l'agence avant celle pour leur nation. Toutefois, la mission de l'ARP étant d'assurer la protection de l'ensemble de la civilisation humaine, il espérait que ses membres puissent trouver un juste équilibre. Ils allaient devoir affronter la menace d'un envahisseur extraterrestre, et il était indispensable que la communauté soit la plus solidaire possible. Pendant que le vice-directeur Yu tenait son discours, Cheng Xin remarqua que Wade poussait sur le pied de la table de la réunion avec sa jambe, s'éloignant peu à peu, comme s'il voulait rester à l'écart. Après que tous les vice-directeurs eurent fini leur laïus, Wade fut invité à prendre la parole, mais celui-ci déclina d'un geste de la main. Il finit enfin par l'apprendre de lui-même lorsque tous les autres fonctionnaires eurent terminé ce qu'ils avaient à dire. Il désigna la pile de documents et de cartons entassés encore non ouverts au milieu de la salle de réunion. « Au boulot !» Il faisait visiblement référence à tout le travail administratif qui attendait l'agence maintenant qu'elle venait d'être fondée.
Je vous remercie de bien vouloir vous en occuper et de ne pas me faire perdre mon temps. Ni le leur. » Il désigna Vadimov. « Les experts du Centre de planification technologique restent ici. Les autres peuvent sortir. » Il ne resta plus dans la salle qu'une dizaine de personnes. Le calme s'installa. Puis, à peine la lourde porte en chêne refermée, Wade lâcha cette bombe. « Mesdames, messieurs, la RP va envoyer une sonde espion dans la flotte trisolarienne. » Tous demeurèrent dans un premier temps pantois, puis ils se regardèrent sans savoir quoi dire. Cheng Xing aussi était stupéfaite. Elle espérait bien sûr pouvoir être rapidement débarrassée des corvées administratives pour se consacrer au travail technique de leur mission, mais elle n'avait pas imaginé que les choses iraient si vite et que Wade entrerait dès la première réunion dans le vif du sujet. La RP venait tout juste d'être créée et ne comportait pour l'instant aucune branche nationale ou régionale. Techniquement, elle était d'ailleurs encore loin d'être prête pour lancer ce genre de projet. Mais ce qui avait surtout étonné Cheng Xin, c'était l'idée même proposée par Wade. Sur un plan technique, et d'ailleurs même sur tous les autres plans, c'était tout à fait impensable.
« Y a-t-il un axe de travail privilégié ?» demanda Vadimov, le seul à ne pas avoir sourcillé à l'annonce de Wade.
« J'ai déjà eu l'occasion de consulter de façon informelle les représentants des membres permanents à ce sujet, mais il n'a pas encore été mis officiellement à l'ordre du jour du CDP. D'après mes informations, l'un des axes qui suscite le plus d'intérêt au CDP, et sur lequel il ne peut y avoir aucun compromis, sous peine de quoi le Conseil refuserait d'investir dans le projet, est le suivant. La sonde doit pouvoir être en mesure d'atteindre 1/100 de la vitesse de la lumière. Pour le reste, chaque membre a son avis sur la question, mais tout pourra être négocié lors des séances plénières du CDP.
Si je comprends bien, intervint un expert de la NASA, nous allons envoyer une sonde qui mettra 2 ou 3 siècles pour atteindre le nuage d'Oort, où elle sera interceptée par une flotte trisolarienne qui aura déjà commencé à ralentir. Et encore tout cela dans l'éventualité où nous ne prenons en compte que la phase d'accélération et non celle de décélération. Ça me semble être un projet un peu trop futuriste.
À cause du blocus des intellectrons, répliqua Wade, nous n'avons aujourd'hui aucune idée des projets technologiques que l'humanité sera ou non capable d'effectuer dans l'avenir. Imaginez que nous soyons condamnés à nous déplacer dans l'espace à la vitesse d'un escargot. Autant commencer à ramper le plus tôt possible.
Cheng Xin soupçonnait Wade d'être motivé par des raisons politiques. C'était la première fois que l'humanité engagerait une action en vue d'entrer en contact direct avec une civilisation extraterrestre, et ce projet garantirait à l'agence une place centrale.
Mais si on se base sur la vitesse de navigation spatiale actuelle de nos appareils, il va falloir 20 ou bien même 30 000 ans avant de pouvoir rejoindre le nuage d'Oort. Si nous lançons la sonde aujourd'hui, elle n'aura même pas franchi la porte que les flottes ennemies auront déjà passé le seuil. C'est bien pourquoi il nous faut atteindre 1/100 de la vitesse de la lumière.
Vous voulez dire multiplier par 100 la vitesse maximale de navigation actuelle? Sans même parler de vaisseaux ou de sondes, rien que la vitesse des médiums de propulsion de nos moteurs est de plusieurs zéros en dessous de cette vitesse. Selon le principe de la quantité de mouvement, si on veut créer un vaisseau qui puisse un jour atteindre 1/100 de la vitesse de la lumière, il faut que le médium de propulsion dépasse, et largement, cette vitesse. C'est aujourd'hui impensable. Je vais être honnête, il me semble compliqué d'envisager à court terme une percée technologique majeure dans ce domaine.
Le poing de Wade s'abattit lourdement sur la table. Vous oubliez les ressources que nous avons à disposition. Hier encore, la navigation spatiale était un secteur marginal, mais il est devenu incontournable aujourd'hui. Nous pouvons désormais nous attendre à d'énormes investissements, ce qui était inimaginable il y a encore peu de temps. Ce sont les moyens que nous allons mettre en œuvre qui vont bouleverser les principes de la physique. Soyons sauvages, soyons brutaux s'il le faut, et nous arriverons à atteindre 1% de la vitesse de la lumière.
Vadimov leva instinctivement la tête et scruta la pièce. Wade perçut son anxiété.
Pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a ici ni journaliste ni personnel extérieur.
Vadimov sourit en secouant la tête.
Ne le prenez pas mal, mais dire que l'argent va bouleverser les principes de la physique risque de vous valoir des moqueries.
Ici, ça passe encore, mais je vous déconseille vivement de lancer ça lors d'une séance du CDP. Je suis bien conscient que vous êtes déjà en train de vous moquer de moi.
Tous les autres gardèrent le silence, ne souhaitant qu'une chose, que la réunion se termine au plus vite. Les yeux de Wade balayèrent la pièce, puis il lâcha soudain.
« Ah, je vois que tous ne se moquent pas. Elle ne rit pas. »
Il désigna Chang-Sin.
« Toi, qu'est-ce que tu en penses ?»
Sous le regard acéré de Wade, Chang-Sin eut la sensation que ce n'était pas un doigt que ce dernier pointait vers elle, mais une épée. Elle était désemparée. Était-ce maintenant à son tour de s'exprimer ?
« Je crois que nous devrions encourager la MD ici, » ajouta Wade.
Chung-Sing n'en était que plus dérouté. « MD ? McDonald's ? Médecine douce ?
Vous êtes chinoise et vous ne connaissez pas la MD ?»
Chung-Sing implora du regard les cinq autres Chinois de la salle. Ils étaient aussi désorientés qu'elle.
Pendant la guerre de Corée, les Américains ont remarqué que les simples soldats des troupes chinoises qui étaient faits prisonniers étaient très informés des plans de bataille de leur propre camp. Les Américains ont découvert que les officiers chinois soumettaient les stratégies envisagées aux militaires de tout grade, dans l'idée qu'ils puissent en débattre et tenter de les améliorer. Voilà ce que c'est la MD. Il va de soi que dans notre cas, si vous avez le malheur d'être capturé par l'ennemi, nous n'avons aucune envie que vous en sachiez autant. »
Quelques rires fusèrent dans la salle. Chang-Sin finit par comprendre que ce concept de MD renvoyait à Military Democracy, démocratie militaire. Les participants applaudirent à la proposition de Wade. Les petits génies de la navigation spatiale venus du monde entier assister à cette réunion, des hommes pour la plupart, n'escomptait pas que quelque chose de valeur puisse sortir de la bouche d'une vulgaire assistante technique. Cependant, il comptait bien profiter de l'intervention de Chung-Sin pour admirer ses attributs. Les efforts de Chung-Sin pour se vêtir de manière sobre et solennelle n'avaient malheureusement jamais été d'aucun secours face à l'attirance déplacée qu'elle suscitait chez la gente masculine.
« J'ai bien une idée. »
« Pour bouleverser les lois de la physique ?»
cracha d'une voix dédaigneuse Comaline, une Française d'un certain âge, consultante détachée par l'Agence spatiale européenne. Elle avait perçu avec un certain mépris le regard lubrique que les hommes posaient sur Chung-Sin.
« Non, plutôt pour les contourner, »
répondit Chung-Sin à son adresse.
« Les ressources qui me paraissent les plus opportunes dans notre situation sont les armes nucléaires. » En l'absence d'avancées technologiques majeures, ce seront sans doute les plus grandes pourvoyeuses d'énergie dont nous pourrons nous servir pour envoyer un objet dans l'espace. Imaginez un vaisseau ou une sonde pourvue d'une voile radiative de très grande taille, une sorte de membrane, un peu comme une voile solaire, mais pouvant être propulsée par des radiations nucléaires. Non loin derrière cette voile se produiraient en continu et à des intervalles fixes des explosions nucléaires.
On entendit des gloussements, dont celui de Comaline, sans conteste le plus sonore.
« Ma chérie, vous nous offrez une scène de dessin animé. Un vaisseau plein à ras-bord d'armes nucléaires avec un héros à la Arnold Schwarzenegger qui les balance à l'arrière pour qu'elles explosent. Ça, c'est une idée !»
Elle continua au milieu des rires qui s'intensifiaient.
« Le mieux, ma fille, serait que vous relisiez vos cours de licence sur le rapport poussée-poids.
Vous n'avez certes pas changé les principes de la physique, mais vous avez au moins réussi à être brutal, comme l'a demandé Wade. Je trouve juste un peu dommage qu'un joli brin de fille comme vous s'adonne à une telle violence, » ajouta un consultant portant l'hilarité à son comble.
« Les bombes ne seraient pas à bord du vaisseau, »
rétorqua calmement Chung-Sin, ce qui eut pour effet de faire cesser les rires, comme si elle avait plaqué sa main à la surface d'une cymbale.
L'appareil ne serait composé que de la voile et de la sonde elle-même. Il serait aussi léger qu'une plume,
et pourrait accélérer sans peine grâce aux radiations des détonations nucléaires qui auraient lieu à l'arrière.
Une chape de silence tomba sur la salle. Tous se demandaient où les bombes pouvaient bien dans ce cas être stockées, mais personne ne lui posa la question. Un instant plus tôt, tandis que tous riaient au nez de Chang Xin, Wade était resté de glace. Mais à présent, un sourire frigide s'esquissait lentement sur son visage. Chang Xin se saisit de la pile de gobelets en papier du distributeur d'eau placé dans son dos, puis elle les posa un à un sur la table à distance régulière.
Voici les bombes. Elles sont réparties sur le premier segment de la trajectoire de navigation de la sonde. Au préalable, on a procédé au lancement de celle-ci avec une méthode de propulsion traditionnelle.
Elle prit un stylo et lui fit longer la rangée de verres.
Chaque fois que le vaisseau passe à côté d'une bombe, celle-ci explose derrière la voile, générant une nouvelle force de propulsion.
L'un après l'autre, les hommes détournèrent leur regard graveleux du corps de Chang Xin. Seule Comaline continuait à la fixer comme si elle était étrangère.
Nous pouvons appeler cette technique propulsion segmentée. Le premier segment correspond à l'étape de poussée initiale et ne représente qu'une infime parcelle de l'ensemble du parcours, avec une estimation de 1000 bombes réparties sur un itinéraire de 5 unités astronomiques allant de l'orbite de la Terre à celle de Jupiter. On peut même faire encore plus court et réduire l'étape de poussée initiale en disposant les bombes à l'intérieur de l'orbite martienne.
Quelques murmures épars rompirent le silence. Puis ceux-ci se firent plus nombreux et plus denses comme une fine pluie localisée se changeant en averse torrentielle.
« Cette idée ne t'est pas venue à l'instant, n'est-ce pas ?»
demanda brusquement Wade, qui avait jusqu'ici écouté sa proposition avec beaucoup d'attention. Chang Xin lui sourit.
« C'est une vieille idée bien connue des cercles des experts en navigation aérospatiale. La propulsion nucléaire pulsée.
« Docteur Chung, fit Comaline,
nous connaissons tous la théorie de Stanislav Ulam, mais son idée était que les sources des détonations se trouvent à bord de l'engin. L'idée de les placer sur sa trajectoire de navigation est la vôtre. Du moins, je n'en ai jamais entendu parler. »
La discussion qui s'était apaisée s'enfiévra de plus belle. On avait jeté un morceau de chair fraîche à une meute de loups affamés.
Wade frappa du poing sur la table. « Ne nous embourbons pas maintenant dans des détails. Nous ne sommes pas en train de faire une étude de faisabilité. Nous réfléchissons à l'intérêt d'en faire une. Voyons plutôt si cette proposition présente des obstacles indépassables. »
Après un court silence, Vadimov prit la parole.
« L'un de ses avantages, en tout cas, c'est que ce sera un chantier facile à enclencher. »
Les participants étaient tous assez intelligents pour comprendre ce que voulait dire Vadimov. La première étape du projet consisterait à disséminer un grand nombre de bombes nucléaires en orbite autour de la Terre. Les engins capables de les y transporter existaient déjà. Les missiles balistiques intercontinentaux en service pourraient ainsi très bien s'acquitter de cette mission.
Les Peacekeepers américains, les Topol M russes et les Dongfeng 41 chinois étaient quant à eux en mesure de lancer directement une bombe nucléaire en orbite terrestre basse. Et même des missiles balistiques à moyenne portée pourraient faire l'affaire si on leur flanquait un propulseur d'appoint. Par comparaison avec le grand projet de désarmement nucléaire engagé au début de la crise, il était beaucoup moins coûteux d'envoyer les armes nucléaires dans l'espace plutôt que de les démanteler au sol.
Très bien. Arrêtons ici pour aujourd'hui notre discussion sur cette méthode de propulsion segmentée. Y a-t-il d'autres idées ?
Interrogea Wade, en inspectant les autres participants d'un regard inquisiteur. Certains parurent ravaler leur salive. De toute évidence, ils avaient le sentiment que leurs idées auraient du mal à rivaliser avec celles de Chang Xin. Et tous les regards se tournèrent encore vers elle, porteurs d'une attention cette fois bien différente.
« Nous organiserons encore deux réunions de ce type. J'attends de vous d'autres propositions. » D'ici là, nous allons immédiatement engager une étude de faisabilité sur cette méthode de propulsion segmentée. Une idée de nom de code ?
Chaque détonation nucléaire fera passer un nouveau palier de vitesse à l'appareil, comme s'il gravissait une marche de plus. Je propose programme escalier. dit Vadimov.
Outre la condition donnée d'atteindre 1/100 de la vitesse de la lumière, l'étude de faisabilité devra aussi prendre en compte un paramètre important, le poids de la sonde. Il est possible de fabriquer une voile radiative fine et légère. En l'état actuel de la technologie des matériaux, on peut imaginer une voile de 50 km² ne pesant qu'une 50aine de kilos. Cela devrait suffire, non ? Suggéra un expert russe qui avait jadis pris part à une expérience ratée de création de voiles solaires. Alors il ne reste plus que la sonde elle-même.
Tous les regards convergèrent vers un individu présent dans la pièce, le concepteur en chef de la sonde Cassini-Huygens.
Si on inclut les instruments de base de la sonde, ainsi que l'antenne et la batterie isotopique nécessaires pour renvoyer des informations depuis le nuage d'Oort, je dirais 200 ou 300 kilogrammes.
Impossible, fit Vadimov en secouant fermement la tête.
Il faut que la sonde soit, comme l'a dit Cheng Xin, aussi légère qu'une plume. Dans ce cas, il faut réduire ses fonctions au strict minimum, ce qui nous permettrait de tomber à 100 kilos.
Mais ça me semble trop peu et je ne suis pas sûr qu'elle puisse ainsi être parfaitement opérationnelle.
Il faudra pourtant bien. Le poids total, voile et sonde comprises, devra être en dessous d'une tonne, dit Wade. Nous utiliserons toute la puissance des hommes pour propulser une tonne dans l'espace. Et nous y arriverons, n'est-ce pas ?
La semaine qui suivit, Cheng Xin passa toutes ses nuits en vol. En qualité de membre du groupe de travail dirigé par Vadimov, elle ne cessait de naviguer entre les 4 agences spatiales américaines, chinoises, russes et européennes, afin de coordonner l'étude de faisabilité du programme Escalier. En une semaine, Cheng Xin avait voyagé dans plus d'endroits qu'elle n'aurait jamais imaginé voir en toute une vie. Elle devait néanmoins se contenter d'admirer les paysages depuis les fenêtres des véhicules et des salles de réunion. Aux premières heures du programme, il avait été envisagé que ces organismes collaborent à l'élaboration d'une étude commune, mais il avait bien fallu se rendre à l'évidence que c'était peine perdue. L'ARP dut se résoudre à laisser chaque agence mener ses propres recherches. L'avantage était cependant qu'il serait possible d'effectuer une comparaison des 4 études pour en extraire des résultats plus pertinents. Toutefois, la masse de travail de l'ARP s'en voyait considérablement augmentée. Pour autant, l'enthousiasme de Cheng Xin ne faiblissait pas. Après tout, c'était elle qui avait eu l'idée de ce projet. L'ARP ne tarda pas à recevoir les conclusions préliminaires des études conduites par les 4 agences spatiales. Leurs résultats étaient très proches. Tout d'abord, ils apportaient une bonne nouvelle. Il était possible de réduire de façon appréciable la surface de la voile radiative. 25 km² pouvaient suffire. En utilisant des matériaux optimisés, il était possible d'abaisser le poids de la voile à 20 kg. Mais elle était aussi accompagnée d'une très mauvaise nouvelle. Pour atteindre 1% de la vitesse de la lumière, comme cela était exigé, le poids total de la sonde ne devait pas excéder 1/5 du poids minimal envisagé initialement, soit 200 kg. En déduisant le poids de la voile, il ne restait donc plus que 180 kg pour les senseurs de la sonde et les appareils de communication. Quand il prit connaissance des conclusions, Wade déclara avec une totale indifférence
« Il n'y a aucune raison de se tourmenter, car je vous apporte une nouvelle encore pire. Au cours de la dernière séance du Conseil de défense planétaire, les membres ont voté majoritairement contre la résolution du programme Escalier. »
4 parmi les 7 représentants des pays membres permanents du CDP avaient voté en défaveur du programme. Les raisons de ce refus étaient étonnamment les mêmes pour tous. À l'inverse des experts en navigation spatiale de l'ARP, les représentants ne voyaient pas l'intérêt de développer une nouvelle méthode de propulsion. De plus, ils considéraient que l'efficacité d'une sonde pour obtenir des renseignements sur l'ennemi était limitée.
Quasi nul, pour reprendre les mots du représentant américain.
La sonde n'étant pas en capacité de ralentir, il fallait donc compter sur la décélération de la flotte trisolarienne. De surcroît, elle croiserait les vaisseaux à une vitesse relative de 5% de la vitesse de la lumière, en admettant qu'elle n'ait pas été capturée par l'ennemi.
La chance pour que celle-ci obtienne des informations pertinentes était mince. Les restrictions liées au poids de la sonde ne permettaient pas, en outre, d'envisager un sondage actif, tel qu'un sondage radar. Il fallait procéder à un sondage passif pour recueillir des informations indirectes, des signaux électromagnétiques par exemple. Or, le système de communication ennemi ne devait certainement plus utiliser de rayonnement électromagnétique depuis des lustres. Il se servait probablement de médiums encore hors de portée des technologies humaines comme les neutrinos ou les ondes gravitationnelles. Il y avait une autre explication primordiale à leur refus. Avec l'existence des intellectrons, le projet d'envoi d'une sonde espion était absolument transparent aux yeux de l'ennemi, ce qui réduisait d'autant plus ses chances de réussite. En somme, lorsqu'elles eurent mis en balance les énormes investissements que supposait un tel projet, avec les bénéfices très limités qu'elles pouvaient en tirer, les grandes puissances avaient jugé que la valeur symbolique du programme ne méritait pas un tel engagement. La seule raison qui avait poussé les trois autres représentants du CDP à voter en faveur du projet était la perspective de développement d'une nouvelle technologie de propulsion capable de faire voler un appareil à 1/100 de la vitesse de la lumière.
« Je ne peux que leur donner raison, » concéda Wade.
Tout le monde se tut, comme pour se recueillir en silence dans un dernier hommage au défunt programme Escalier. Ce fut naturellement Chung Sin qui reçut le coup le plus dur, mais elle se réconfortait en se disant que cette expérience avait de loin dépassé ses attentes et avait été riche en enseignements pour la jeune novice qu'elle était encore.
« Tu m'as l'air bien triste, » lança Wade à Chung Sin. « Tu sembles croire que nous allons abandonner le programme Escalier. »
Tous jetèrent sur Wade des regards ahuris dont la signification était limpide. « Que pourrions-nous bien faire d'autre ?»«
Nous ne renonçons pas au projet. »
Wade se leva et fit le tour de la table.
« Désormais, qu'il s'agisse ou non du programme, vous ne cesserez votre travail que lorsque je vous le dirai. Avant cela, vous n'aurez qu'un seul choix possible. Allez de l'avant !»
Il perdit brusquement son timbre de voix d'ordinaire si froid et flegmatique et se mit à rugir furieusement à la manière d'une bête sauvage.
« Allez de l'avant, de l'avant, encore de l'avant, et ne reculez devant rien !»
Wade se trouvait juste derrière Chung Sin. Elle avait l'impression qu'un volcan avait fait éruption dans son dos. Elle fut si surprise que ses épaules tressaillirent et qu'elle manqua de pousser un cri.
« Quelle est la prochaine étape ?» demanda Vadimov. « Nous allons envoyer quelqu'un. »
Wade avait retrouvé son calme et ses accents de voix froids et insensibles. Cette dernière phrase ne souleva pas immédiatement la même attention que son féroce rugissement quelques secondes plus tôt. On avait d'abord cru à un simple écho qui se serait échappé de sa bouche. On ne commença à réagir qu'un long moment plus tard quand on comprit que l'annonce de Wade était sa réponse à la question de Vadimov, que c'était la prochaine étape du programme Escalier. Il ne parlait pas d'envoyer quelqu'un au CDP, mais bien hors du système solaire, dans le glacial et lugubre nuage d'Oort, à une année-lumière de la Terre, pour espionner la flotte trisolarienne. De façon presque compulsive, Wade repoussa une nouvelle fois la table du pied pour prendre de la distance et écouter la discussion. Mais il n'y eut aucune discussion. Exactement comme une semaine plus tôt, lorsque Wade avait proposé d'envoyer une sonde en expédition vers la flotte trisolarienne. Chacun ruminait péniblement cette idée, en essayant de démêler au mieux la pelote de laine que Wade venait de leur lancer. Bien vite, ils en vinrent à la conclusion que cette proposition n'était pas aussi risible qu'elle pouvait sembler au premier abord. Les techniques de cryogénisation étaient déjà relativement matures. L'espion pourrait accomplir sa traversée en état d'hibernation. En imaginant un individu de 70 kilos, il en resterait 110 pour l'équipement d'hibernation et la structure de la cabine, qui serait aussi rudimentaire qu'un cercueil. Mais ensuite, 2 siècles plus tard, lorsque l'espion rencontrerait la flotte trisolarienne, qui, le ou la, réveillerait? Et que pourrait-il ou elle bien faire après son réveil? Ces questions trottaient dans la tête de chacun, mais aucun n'osa les poser à voix haute. Le bureau était toujours plongé dans le silence,
Mais Wade paraissait lire dans les pensées. Tandis que tous réfléchissaient encore, il ajouta « Nous enverrons un être humain dans le cœur de l'ennemi. »
« À la condition que la flotte trisolarienne capture la sonde, ou plutôt son occupant, » dit Vadimov.
« Mais il y a de grandes chances que cela se passe ainsi, n'est-ce pas ?» rétorqua Wade.
À son « n'est-ce pas ?», il leva les yeux en l'air comme si sa phrase était adressée à quelqu'un d'autre. Tous les participants savaient pertinemment qu'en ce moment même, des intellectrons flottaient tels des spectres autour d'eux, et que dans un monde situé à 4 années-lumière d'ici, d'autres participants buvaient leurs paroles. On oubliait pourtant souvent la présence des intellectrons, et quand on s'en souvenait soudain, la sensation éprouvée, outre la frayeur, était celle d'une mystérieuse insignifiance, l'impression d'être une fourmi dont la colonie était examinée par la loupe d'un enfant taquin. La confiance en soi était mise à mal quand on savait que tout projet formulé était connu de l'ennemi, parfois avant même que les supérieurs hiérarchiques en soient informés. Les humains n'avaient d'autre choix que de s'habituer à cette guerre dans laquelle ils étaient absolument nus aux yeux de leurs adversaires. Cependant, Wade paraissait aujourd'hui avoir retourné la situation. Dans le plan qu'il imaginait, la transparence totale du projet constituait un avantage, car les trisolariens connaîtraient tout de la trajectoire exacte prise par la sonde et pourraient l'intercepter sans peine s'ils le voulaient. Même si, grâce aux intellectrons, le monde humain était loin d'être étranger à l'ennemi, celui-ci serait peut-être curieux de pouvoir étudier de près un spécimen vivant. Il y avait donc une chance que la flotte trisolarienne décide de capturer cet hibernaute. Dans les guerres de l'information traditionnelles, envoyer dans le camp ennemi un espion à l'identité connue était un stratagème insensé. Mais ce n'était pas là une guerre traditionnelle, et le fait même qu'un humain puisse entrer dans le cœur de l'armée extraterrestre était en soi un exploit héroïque, quand bien même son nom et sa mission étaient entièrement dévoilés. Il n'était pas même nécessaire d'établir un plan d'action à l'avance. S'il ou elle réussissait à pénétrer au sein de la flotte trisolarienne, la transparence des pensées et des stratégies trisolariennes ouvrirait des possibilités infinies. Nous enverrons un être humain dans le cœur de l'ennemi.